Ah putain, mais c'est quoi ce bordel? Non, non, mais non. Non, Taro, là, c'est plus possible, là. Depuis une semaine, quand je me réveille, soit t'es au pied de mon lit, soit t'es carrément dedans, et ce matin, tu me fais quoi? Tu t'es blotti sur moi avec le cul littéralement sur mon nez? Mais putain, mais t'as une piole!
Mais j'y peux rien, Nia! En tant que dragon, Nia! Tout comme mes frangins les reptiles, j'ai le sang froid, j'ai besoin de m'exposer à la chaleur! Avec cette saison, Nia, où on voit pas le soleil, j'ai pas le choix, Nia! Je suis obligé de trouver des combines!
Non, non, mais... Oh, mal de crâne, c'est pas possible! Alors, soit t'es un dragon, soit t'es un chat. Alors, va falloir que tu choisisses si tu veux pas que je transforme mes envies de meurtre en passage à l'acte.
Mais enfin, Nia, je suis une Shragon Maid. Tu devrais le savoir depuis le temps.
Rends-toi utile au lieu de raconter des conneries et va préparer le petit déj. Ah, attends. Pour le thé, je m'en occupe.
J'y vais tout de suite, Nia.
Je vais craquer, hein. Bon, bah là, bon, j'ai plus le choix. Je voulais pas l'utiliser sur lui, mais aux grands mots, les grands remèdes. Ah, voilà. Ce poison, il pourrait buter un éléphant, ça va bien le rendre malade pendant un petit moment. Il sera à l'hosto et moi, je serai enfin peinard.
C'est prêt.
J'arrive. Allez, renverse dans l'eau chaude et c'est parti. Tiens, Taro, ton thé est servi.
Arigato. Mmh, il sent super bon.
J'espère bien, je l'ai fait spécialement pour toi.
Ce thé est... empoisonné.
Mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes, voyons. C'est... non, ça... qu'est-ce que tu vas imaginer?
J'adore. J'avais jamais ressenti ma langue s'engourdir à une telle vitesse.
Okay.
En plus, le poison s'attaque déjà à mon foie et mes reins, c'est remarquable. Attends. Carbone, hydrogène, azote et oxygène. Avec cette saveur particulière là. Oh, de l'alpha-amanitine probablement? J'y crois pas. T'as ramassé des amanites phalloïdes?
Non.
Mais faut que tu me montes quoi, un champignon? Oh, s'il te plaît.
Attends. Si tu me garantis de plus jamais te pointer dans ma piole, même la nuit, on a un deal.
Oh, c'est vraiment pas juste, Nia.
Le samouraï et la soubrette. Épisode 21. Les carnets de l'apothicaire.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 21e épisode Nia, des carnets de l'apothicaire Nia, et on va parler du samouraï et de la soubrette.
Oui, oui, alors d'accord, donc ok Jean, c'est pour ça que d'habitude c'est moi qui le fais. Voilà. Donc, non,
oh,
vous inquiétez pas.
C'est pas juste, Nia.
Voilà, donc, vous avez bien compris. 21e épisode du Samouraï et de la soubrette. Et on va parler des carnets de l'apothicaire. Vous avez déjà entendu Jean. Bonjour, Jean.
Bonjour, Xavier. Et donc, l'épisode 21, donc la majorité.
C'est ça.
Majorité internationale.
Voilà, on a le droit de boire et de conduire et de faire plein de choses qu'on n'avait pas le droit de faire avant. Et je ne vais pas élaborer plus sur cette métaphore. Donc, les carnets de l'apothicaire, pour faire une petite présentation de ce que c'est. C'est d'abord un roman de Natsu Yuga qui était sorti en 2012 et qui a été un énorme succès d'édition au Japon. Un tel succès qu'il y a eu des adaptations aussi en light novel d'abord, puis en manga par deux fois. Et finalement une adaptation en série animée dont on va parler aujourd'hui par le studio OLM, donc un studio historique qui était connu notamment pour sa version de Berserk en 97. Mythique, en gros, la version en fait qui a popularisé la série auprès de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et si le studio est très connu, c'est aussi parce qu'il a fait un bon paquet de films et de séries Pokémon. Et pour le coup, des séries Pokémon, il y en a eu beaucoup.
pardon ?
Il y en a eu vraiment beaucoup. Ils les ont pas toutes faites, mais ils en ont fait une certaine partie quand même.
Plutôt dans les premières saisons ?
Plutôt dans les dernières.
Plutôt dans les dernières, d'accord.
À partir,
okay.
Alors, quoique, genre les XY, par exemple.
Ouais, non mais quand je dis les premières, c'est genre, je pense aux quatre premières, tu vois.
Ah non, donc c'est pour ça que je dis, c'est plutôt...
Celles que j'ai regardées quand j'étais gamin, tu vois.
Donc, en fait, ils ont pas fait les dernières, ouais, mais bon, ouais. J'imagine que la Pokémon Company a usé beaucoup de studios, ouais, différents pour ça.
Non, mais c'est
celles
que
ça,
je regardais quand moi j'avais 8 ans et que toi, t'en avais 50.
Oui, pour parler des trucs, par contre, plus... alors, déjà, non, j'avais pas 50 ans. Mais oui, pour parler de choses sur lequel ils ont été récemment impliqués, le studio OLM. C'est sur des séries lycéennes de moindre envergure comme Komi ne peut pas communiquer ou Arrête de me chauffer Nagatoro. Des séries avec beaucoup de tsundere dedans. Peut-être que tu devrais y jeter un coup d'œil, je sais pas.
Bah, ça est super, super, super aide, comme de grande classe, comme d'habitude. Hein.
Et donc, Les Carnets de l'Apothicaire, c'est une série en 24 épisodes qui ont été diffusés entre octobre 2023 et mars 2024, disponible sur Crunchyroll, qui a produit une VF pour l'occasion. Mais si vous aimez plutôt le japonais, vous pourrez la trouver sous le nom japonais de... Non, moi je peux pas.
Bon, j'y vais.
Ouais, vas-y.
Ouais, j'y vais. Kusuriya no Itorigoto.
Ouais, voilà, comme il dit. Vu que Jean, tu as la main, je te laisse présenter le concept de la série.
Eh ben, c'est parti. Alors, en termes de concept, du coup, c'est assez original. Je m'y attendais pas trop quand tu m'avais parlé de la série, que j'y ai jeté un petit coup d'œil, et même de deux yeux. C'est une sorte, en fait, de détective Conan modernisé, j'aurais dit. Avec un setup intéressant, donc en gros ça prend place dans la cour impériale de l'empereur, c'est alors plutôt en Chine, j'aurais dit.
C'est en Chine, oui.
C'est en Chine, ouais.
Et, en Chine impériale, donc plutôt, vu les technos employés, on est plutôt 17-18e siècle.
Là, ouais, là je te laisse la main parce que là-dessus je suis perdu. Et donc, pas spoiler les événements en question, mais en gros, un personnage se retrouve impliqué là-dedans, alors qu'à la base, la personnage principale était extérieure à tout ça. Et du coup, ce setup-là, cet univers-là, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les animés jusque-là, en tout cas ceux qu'on a regardés, parce qu'évidemment, on n'a pas couvert toute la production, heureusement. C'était du coup, c'était rafraîchissant, c'était intéressant. Et donc, voilà, le personnage a des connaissances diverses qui font qu'on apprend des trucs intéressants. Sur des thématiques qui, perso, m'ont déjà intéressé par le passé. Je ne sais pas si tu sais, mais dans ma bibliothèque, au milieu de 36 000 Blu-ray et autres romans particulièrement savoureux, j'ai La Rousse des plantes médicinales, par exemple. Voilà, et donc, oui, le personnage, Les Carnets de l'Apothicaire, un personnage étant apothicaire, a des compétences d'herboriste, entre autres.
Toujours su que tu étais un hippie.
Putain. Trop pas. Et du coup, voilà, il y a des enquêtes qui vont tourner autour de ça. Donc, généralement, c'est on présente une problématique au personnage et elle va essayer, avec ses connaissances et en se rendant sur les lieux, en analysant un petit peu, essayer de reconstituer la fresque. Voilà. Et ça, c'était plutôt rafraîchissant. Je vais embrayer sur la partie visuelle. On a des choses à dire tous les deux, mais je vais commencer.
Vas-y, vas-y.
On en a parlé déjà dans l'épisode précédent, pardon, sur Oshinoko. Bon, là, c'est pareil, on est à peu près sur les mêmes standards. Peut-être qu'il y a un petit point de travail sur les yeux, où il n'y a pas de passage d'idol qui chante.
Quoique les yeux de Mao Mao, oui, ça renvoie du steak.
Ils sont quand même pas mal.
Ça renvoie du steak.
Ouais, mais ils trichent un peu parce qu'il y a des parties où elle est en chibi, où c'est plus, là, c'est plus ses oreilles de chat qui ont eu du budget, je sais pas. Ouais, non, franchement, la série est quand même très propre visuellement. Donc, on est dans la lignée de ce qu'on disait des séries qui, pas forcément toutes les séries, mais au moins un lot de séries un peu loton qui se dégage et qui élève les standards de qualité vers un nouveau niveau.
Avec, en plus, comme il y a le côté historique, série historique,
ouais.
Il y a une vraie, quelque chose qui est mis sur les, sur
un
les
gros
décors.
Sur les décors, ouais.
En plus.
Et du coup, justement, ça tombe bien parce que les décors, je voulais en parler. J'en ai pas parlé sur Oshinoko parce que je pense que ça m'a plus marqué sur Les Carnets de l'Apothicaire. On a quand même forcément beaucoup de choses pour les décors, les accessoires qui sont faits en 3D. En fait, grosso modo, pour résumer en très simple, sur Les Carnets de l'Apothicaire, les personnages sont en 2D, le reste est en 3D. Grosso modo. Et on a atteint un niveau assez impressionnant de déguisement de la 3D en 2D. Alors bon, on adhère ou on adhère pas. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui ont une opinion de en fait, si tu veux faire de la 2D, fais de la 2D et fais pas de la 3D, la déguise pas. Moi, perso, pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes avec ça et je trouve qu'en fait, c'est vraiment de mieux en mieux caché. Donc nous, forcément, ayant l'œil un petit peu entraîné à ça,
ouais.
on y fait attention. Mais franchement, c'est vraiment super, super propre. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a pas trop ça en tête, franchement, ne remarque même pas. Quoi.
Moi, je suis de l'école whatever works, en fait. C'est-à-dire que peu importe les techniques que tu utilises, si, entre guillemets, le résultat est convaincant, et que, entre guillemets, je vois pas les coutures, ou que je suis assez fasciné par le propos pour pas voir les coutures, ça me va très bien, et je trouve que là, effectivement, ça fonctionne
ouais, là,
extrêmement bien.
Ouais, sur cette série, le mélange passe très bien.
Et on a passé quand même assez de temps sur les 20 épisodes précédents du Samouraï à soubrette à parler des intégrations, on va dire.
Ah, tu veux pas encore parler du village de carnet de l'armée de gobelins d'Overlord ?
Non, mais, mais rien que sur Black Lagoon, on disait que c'était pas mal, mais c'était visible, tu vois.
Oui, ouais, non, mais attends, pense, c'était en 2006. Hein.
Ouais, mais, attends, mais justement.
Il y avait un sacré niveau quand même.
Mais justement, c'est pour ça que c'est bien aujourd'hui de faire ce constat-là que. Maintenant, non, ils sont vraiment capables de faire les choses très bien.
Ouais.
Ce dont on doutait encore il n'y a pas si longtemps.
Oui, il n'y a pas si longtemps. Mais c'est que nous avons vieilli depuis. Oh là là.
Effectivement, ben, en fait, pour embrayer le pas, il y a notamment une qualité globale qui est vraiment, je trouve, vraiment impressionnante, surtout sur la représentation en fait des échelles de grandeur et sur les jeux de lumière. Et je pense en particulier à une séquence d'animation sur un des tout premiers épisodes, un épisode qui parle d'un où il y a un problème, disons, de fantômes qui dansent sur les murailles, dirons-nous. Et la scène de fin de cet épisode-là, qui représente le départ d'une courtisane, est absolument magnifique, mais pas que d'un point de vue technique, parce qu'effectivement, on voit l'utilisation de la 3D, notamment sur le décor, sur la représentation en fait, de la longue du long chemin en fait, qu'il y a entre l'entrée du palais impérial et puis la maison, les premières maisons qui sont
les
visibles.
Les premières habitations, ouais. Ouais. Ouais, c'est un petit peu excentré.
Voilà, mais il y a des cadrages. Il y a un jeu de lumière qui c'est très cinématographique, avec en même temps le propos qui est donné, avec entre guillemets l'explication de ce qui se passe, de ce qui est en train de passer, qui est
oui,
extrêmement
c'est,
bien
c'est,
fait.
C'est
quoi.
Pas juste gratuit et académique, il y a une mise en scène qui est signifiante.
Ouais, voilà, et c'est magnifique, quoi. Et je me suis dit, ouais, d'accord, cette série, il y a des efforts supplémentaires qui sont faits par rapport à ce qui est des
intentions cinématographiques.
Ouais, ouais, et c'est. Et là-dessus, ben, c'est assez, je vais pas dire assez rare, mais c'est assez marquant. Et moi, en tout cas, c'est ce qui fait sur les premiers épisodes, je fais OK, ouais. je vais manger tout ça.
Oui, oui, c'est vrai que d'habitude, c'est pas forcément qu'il y a une paresse, mm-hmm. mais il y a peut-être pas les budgets,
pas le temps.
Les intentions et le temps de pouvoir le faire en fait. L'investissement n'est pas fait quoi. Mm. Ouais.
Dernier truc sur les décors, il y a une certaine unicité parce qu'on est dans une cour impériale, donc
oui,
voilà.
Ouais.
Mais par contre, à chaque fois qu'on a un nouveau décor, et ça arrive plusieurs fois,
ouais.
La mise en scène fait en sorte de nous en mettre plein la vue. Première fois qu'on voit Palais de Jade, tu fais « Ah ouais !» Première fois que tu vas à la cour intérieure, tu fais « Ah ouais,
ouais !»
et c'est souvent comme ça, quoi.
Ouais, c'est vrai. Du coup, partie audio peut-être ?
Oui.
Je pense que tu as plus de choses à dire que moi.
Oh, ça va aller relativement vite. En fait, on a série qui se passe en Chine médiévale, donc des instruments chinois tradis, surtout des instruments à cordes frottées ou des instruments à vent. Mais par contre, on n'est pas non plus dans la caricature pure, vu qu'on a quand même des orchestres classiques pour les moments assez majestueux, notamment les parties de défilé de servantes ou de courtisanes.
Oui, tout ce qui est cérémoniel en fait.
Tout ce qui est cérémoniel, voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus majestueux, etc. Mm-hmm. Après, voilà, dans les musiques, de manière générale, il n'y a rien qui m'a particulièrement accroché, même si on reconnaît certaines habitudes de composition de Kevin Penkin partie des morceaux. Kevin Penkin, si vous vous souvenez, c'est celui qui a composé les morceaux des deux saisons et du film Made in Abyss, et qui a vraiment un style de composition très particulier avec des utilisations sonores un peu littéralement extraordinaires.
Qui sort de l'ordinaire.
Littéralement
ouais, extraordinaire.
Et alors, il est très très, il a été très très calmé là-dessus sur par rapport à Made in Abyss. Mais c'est normal vu le setup de la série qui ne demande pas quelque chose d'extrêmement étranger et extrêmement étrange générale.
Oui, forcément, ouais.
Mais on l'entend quand même sur certaines compositions. On a l'habitude en fait d'écouter la BO ensemble lorsqu'on prépare un épisode.
Ah ben journalisme total, hein. ça n'a pas
exactement,
changé.
Exactement, exactement. Pour le coup, quand il y avait des morceaux de Kevin Penkin, à chaque fois, tu avais un Xavier qui faisait « Ah !» Je connais.
Comment ça, juste un Xavier? Non, parce que un genre, non.
Non, toi, tu disais encore. Oh là là.
N'importe quoi.
Oh là là.
Allez, ben écoute, bientôt on va enregistrer les phases d'écoute de musique, hein, parce que tu es malhonnête.
Sors pas les vidéos. Et sors surtout pas les vidéos.
C'est vrai que j'ai des armes de destruction massive en possession.
Dernière chose sur le générique. Il m'a pas marqué plus que ça. Honnêtement, j'étais plus marqué par l'animation des fleurs dans le générique que par la musique en soi. Voilà.
Oui, moi j'ai pas grand chose à rajouter sur cette partie-là. Je te suis. Je suis plutôt d'accord avec toi. Par contre, moi je veux bien qu'on parle un petit peu de narration.
On
commence. Parce que moi j'aurais juste un petit détail à rajouter.
Ok, bah en fait, comme tu le disais, en fait, c'est quand tu parlais de Detective Conan, c'est que c'est ce qu'on appelle les séries procédurielles, c'est-à-dire des séries construites comme une série policière avec toujours un mystère, une enquête, une résolution. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers épisodes tournent autour plutôt de il y a un mystère et du coup on va essayer de résoudre le mystère sur l'épisode. Et de plus en plus, c'est construit comme des arcs, donc avec des mystères sur plusieurs épisodes.
Mm-hmm.
Et que au fond, en fait, on a toujours en fait un fil conducteur qui est en gros les relations entre et les relations et les origines de Jinchi et de Mao, qui sera le fil conducteur, plus les intrigues de cour qui sont assez bordéliques et dont on reparlera plus tard, et globalement la méta enquête dont on va rien révéler maintenant.
Voilà. Oui, non, mais effectivement, il y a plusieurs strates. Oui. De narration, il y a plusieurs fils conducteurs,
c'est ça, et pour le coup c'est plutôt bien foutu en termes de construction.
Moi je trouve que c'est un des points forts de la série,
hein. Oui, voilà, c'est ce qui fait que l'autre point fort, je pense, c'est les personnages principaux aussi.
Oui.
Mais on en parlera plus tard. Mais
donc on arrête d'être d'accord, c'est chiant.
Oui, non, mais écoute, on n'est pas un débat présidentiel. On peut s'en sortir un peu, quoi.
Ça va, il y en a qui regardent plus du dématérialisé, l'autre du physique. On peut s'en sortir.
Mais oui, oui, en fait, pour cool, c'est vrai que la construction est très prenante, qui fait que, vu que chaque y a des éléments, en fait, tu dis, attends, ça, c'est un truc qui concerne l'enquête, mais c'est un truc à voir avec telle intrigue,
mm-hmm.
mais aussi en termes d'intrigue de cours, ça veut dire qu'il y a telle dynamique entre telle mm-hmm. personne et telle personne, et du coup, à chaque fois qu'il y a un élément, tu fais, ah!
Ouais.
Tu turbines et c'est
ouais,
cool.
Normalement, la série, en fait, c'est un peu un engrenage, quoi. Tu mets le doigt dans le premier épisode, si tu te laisses porter par le premier, tu fais le deuxième et c'est parti.
Ah
et
oui, c'est marrant. Hein. Moi, les 24, je les ai un peu bouffés, ouais. Hein, je t'avouerais. Ouais.
Je pense que c'est pas une série que t'arrêtes en cours de route. Si t'as adhéré sur la première moitié, la saison, tu regardes la reste, quoi. C'est...
À part peut-être si y a des éléments qui peuvent te déplaire au bout d'un moment, notamment des éléments dont tu parleras, type humour ou romance, auxquels des fois certaines personnes.
Oui, éventuellement, même si je pense que ça démarre assez vite dans la série, quand même que t'as une intention qui est assez claire dès le départ, mais peut-être, oui. Faisons ça du coup. Je vais rajouter un petit détail sur la narration avant de passer sur l'humour et la romance. J'ai quand même trouvé qu'il y avait. Alors. Franchement, c'est pas un bémol énorme et on n'est pas sur un chambara où je place ça au-dessus parfois de même des points positifs. Il y a quelques petites facilités scénaristiques.
Oui.
On n'est jamais à l'abri de ça dans une série animée, donc c'est pas gros problème là-dessus non plus. Voilà, juste pour je veux le citer parce que des fois tu te dis ah, quand même une coïncidence, elle est pas mal, hein.
Ah bah en plus, moi je suis le premier à pinailler. On va pas reprendre le visionnage de la série qu'on a regardé hier. Mais je suis le premier à pinailler,
oui,
donc
toi t'es monsieur pinaillage, ouais.
Donc je vais pas te contredire là-dessus. Moi j'en ai, c'est pas que j'en ai pas vu, c'est que quand je les ai vus, j'ai fait ok, ça passe.
Ouais, oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est un bémol, c'est pas non plus un vrai problème et c'est pas un frein au visage de la série, quoi. Ouais. Voilà, alors du coup, côté humour, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait il y a quand même pas mal de gags. De petits gags, je trouve qu'ils fonctionnent vraiment bien, que ce soit au niveau du timing ou le comique de situation, il est bien maîtrisé. Il y a des incursions du coup de personnages en chibi pour le personnage principal, donc de Mao Mao, qui fonctionne aussi très très bien. C'est un truc que je tiens à souligner parce que moi je trouve que des fois ça a tendance à vite déraper, en fait. Tu balances du chibi, hop, tu soulignes la comédie et en fait des fois c'est un peu gratuit et dans certaines séries ça me sort un peu du truc. Là je trouve que dans Les Carnets d'Apothicaire, j'ai trouvé que avec le dosage qu'il y a et le fait que c'est un seul personnage qui est concerné, ça fonctionne bien.
C'est bien intégré, surtout que finalement, j'ai l'impression que c'est le seul personnage dont tu devines vraiment les intentions, vu que c'est le seul personnage qui fait, entre guillemets, du monologue. Des fois, t'as un peu Jinchi, mais
oui.
C'est surtout, c'est vraiment
oui,
principalement Mao Mao.
Haute,
Et donc, c'est le seul personnage où tu dis, ok, je comprends que des fois, ça peut être un plomb, surtout que ce personnage a une particularité qui fait que oui, elle pète un plomb quand certains stimuli sont activés, on va dire.
Donc, et voilà. Du coup, voilà, je trouve que sur cette série, ça fonctionne et c'était pas forcément gagné d'avance, quoi. Alors, je sais pas si voilà, mais elle a cette petite particularité. Elle est herboriste, voilà, vis-à-vis de certaines choses qu'elle peut manipuler dans son travail. Elle a une petite particularité qu'on découvre assez vite dans la série. Je trouve franchement ça marche, quoi. C'est vraiment très très drôle. Alors, le personnage passe un peu pour une weirdo auprès des autres, quoi. Mais c'est drôle, quoi. Enfin, franchement,
ça marche super bien parce que c'est l'archétype en fait du personnage qui n'a rien à faire dans cet univers-là.
Ouais.
À cause de cette particularité-là.
Et personne
d'autre
comprend, quoi.
Et que personne ne la comprend, mais justement qui est assez perspicace pour savoir quand il y a des lignes qui sont frangées, en fait.
Ouais.
Ce qui fait que c'est pas des effets qu'on voit sur certaines séries où t'as un personnage totalement weirdo et tu dis mais pourquoi les gens le tolèrent encore, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Alors que là, vu le côté très séculaire qu'il y a quand même dans l'univers de la cour intérieure où les choses sont très très codifiées, sont ultra codifiées.
Pardon.
Et forcément, en fait, oui, elle est bizarre, mais elle sait maquiller parce que justement, elle a assez de perspicacité et d'intelligence sociale pour savoir comment ça fonctionne.
Mais il y a des moments où ça prend un peu le pas, elle craque et les autres sont là, mais oh, putain, crains, meuf.
Ouais.
Mais franchement, c'est super drôle.
Et c'est très drôle le fait que Jinchi le comprenne absolument jamais, en fait.
Ouais, c'est ça qui
et
c'est
ça marche
qui est
bien. Et ce qui marche bien. Ouais.
Et du coup, voilà, bon, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de comiques de situation. Je pense que c'est probablement le type de comique qu'il y a le plus dans la série, plus que du comique de répétition, par exemple, genre de choses. Moi, je trouve que de manière générale, l'humour marche bien. Et franchement, je le classe dans les forces de la série avec justement la narration en plusieurs strates et plusieurs fils conducteurs.
Les scènes de Mao Mao avec Liaku, donc Liaku qui est ce jeune militaire très ambitieux et un peu con, on va pas se mentir.
Un peu naïf.
Un peu
peut-être,
naïf.
Voilà.
Il est pas con, genre il est un peu naïf.
Il a encore un peu la naïveté.
Il a un peu la naïveté et les scènes entre eux sont absolument incroyables.
Ouais, surtout par sa naïveté.
Oui,
par
la naïveté et aussi par Jinchi quand il pointe là-dedans. Il y a des scènes absolument incroyables.
Et qui vient mettre au clair certaines choses.
C'est absolument incroyable. Il y a des scènes vraiment très très drôles et ça marche bien.
Ouais, ça marche bien, ouais. Et puis du coup, pour la partie romance, je trouve qu'il y a un tease d'une romance qui se fait progressivement comme ça. Et je trouve qu'il fonctionne bien parce que, en fait, on est à l'antithèse du Sword Art Online. Alors, dans SAO, moi, la romance m'a touché parce que je suis une petite biatch pour les romances qui sont touchantes. Mais n'empêche que j'ai été d'accord avec toi sur le bémol de wow, ça va vite. Hein, voilà, ça passe très vite de bonjour, moi je m'appelle Kirito, moi je m'appelle Azuna, et puis un petit...
Faisons des enfants.
pas loin, je l'admets, pas loin, votre honneur, pas loin, votre honneur, c'est tout à fait vrai. Non mais là, franchement, ce qui est sympa, c'est qu'on est sur un truc qui est plus crédible dans le sens où, franchement, tu le vois venir assez rapidement, assez vite, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs, sinon on pourrait dire, ah mais tu spoil qu'il va y avoir de la romance, oh là là. En vrai... C'est bien fait parce que c'est progressif, c'est bien construit. Au début, t'as les deux personnages, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Enfin, il y a vraiment des incompréhensions qui font que tu te dis, il y a vraiment un gouffre. Et c'est par, du coup, dans le fil du quotidien, dans le fil des enquêtes, à travers les différentes couches de narration, à travers les petites scènes d'humour qui sont bien réparties sur l'ensemble des épisodes, qu'il y a des petits trucs, des petits indices, des petites réactions qui commencent à se faire. Et au final... Du coup, c'est pas là où on a regardé du coup la première saison. C'est pas, je dirais pas que ça y est, c'est fait, c'est résolu, c'est clos quoi.
On est loin de là.
On est loin de là. Par contre, il y a eu une bonne introduction au fait que clairement, maintenant, je m'attends à ce que ça évolue par la suite quoi.
Alors pas moi.
Pas toi.
Enfin, ça évoluera, c'est sûr. Mais c'est pas un point que j'attends. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je trouve que rien que l'affiche. De la série en fait donne un peu la dynamique entre les deux personnages, c'est-à-dire que un truc de romance, il y aurait par exemple les personnages qui sont tournés l'un vers l'autre dans l'affiche, en fait t'as clairement en gros Mao Mao qui est pensive et qui est plutôt en train de réfléchir à un mystère et Jinchi qui regarde Mao. Et pour l'instant, cette première saison, c'était vraiment la dynamique, c'est-à-dire que
sur le début, Mao c'est Mao clairement comme ça, hein.
Mao Mao pour plein de raisons. C'est pas qu'elle peut pas blairer, c'est que elle se dit globalement que Jinchi c'est juste pas possible pour plein de raisons que je vous laisse découvrir dans la série.
Ouais, ce que je disais, il y a un gouffre, quoi.
Il y a un gouffre. Et que on assiste plus à l'affection de Ginchi qui grimpe que celle de Mao Mao qui est plus concernée par ses histoires et ses mystères.
Non, il y a quand même quelque chose de naissant de son côté aussi, hein, progressivement au fur et à mesure.
En termes d'intensité, rien à voir, mais ok.
Il y a un déséquilibre, on est d'accord, ça démarre pas pareil pour les deux épisodes, donc forcément, si la progression est la même, il y a encore un delta entre les deux.
Oui, mais
c'est crédible.
Tu voulais du désaccord, on y est. Ouais. Moi, je suis pas d'accord,
je le vois pas. Mais c'est crédible aussi, ils sont pas pile poil, et c'est pas justement bonjour, je m'appelle X, je m'appelle Y, on fait des gosses ou pas? Vu qu'on s'aime très très fort tous les deux.
Ouais.
Voilà, non, mais il y a un truc. Mais du coup, en fait, ce qui est pas mal, c'est que c'est pas la romance qui vient prendre le pas sur autre chose, comme t'as dans certaines séries où t'as du slice of life qui démarre et puis là, bim, romance, et puis là, ça tourne plus qu'autour de ça. Je trouve que c'est une série qui arrive vachement bien à jongler et à mélanger les ingrédients entre, bah, du coup, sa narration en plusieurs strates, ses petites touches d'humour pour désamorcer un peu la tension et mettre des petits moments du quotidien sympas entre les trucs un peu plus lourds, quoi, et la romance diluée dans tout ça. Et tu vois, il y a aucun moment où je me suis dit... votre romance me fait chier, je veux savoir où va aller l'enquête. Cette scène d'humour est pas drôle, la romance était plus sérieux. Et enfin, vraiment, c'est un savant mélange. Et je trouve que c'est pas forcément un truc qui est évident à faire. Et sur les carnets de l'apothicaire, j'ai trouvé ça bien.
Je pense que ça doit être aussi la qualité de base du roman, j'imagine. Et puis, il y a aussi le fait que on a la chance que pour une première diffusion, on a une série sur 24 épisodes qui permet justement de diluer plus d'aspects. Oui. Il y a trop de souvent en fait où il y a des séries en fait on va les mettre sur 12 épisodes alors que ce sont des extraits de séries qui sont beaucoup plus longues.
Bah, t'as raison, on a fait une comparaison avec SAO, bah, le premier arc c'est 14 épisodes. Quoi.
Et ça va vite. Hein.
Et 14 épisodes c'est le moment où bah, ça y est, le c'est terminé l'arc. Donc c'est pas au 14e épisode que la romance se termine. Quoi.
C'est con, c'est après le succès du premier arc, ils se sont dit ici on délayait vachement et c'est con, ça aurait mieux, il aurait mieux fallu que ça n'arrive jamais.
Ouais. non mais il n'y a rien après le premier arc, je vois pas de quoi tu parles. On avait parlé de thématique.
Ouais. Oui, donc alors déjà outre le fait que la série est une très bonne remise en contexte du système féodal chinois, surtout au niveau de fonctionnement de la cour, je trouve que il y a un petit peu d'exposition, mais je trouve que c'est surtout fait par l'exemple, le comment fonctionnent les dynamiques entre les personnages, entre les fonctions, entre les strates, entre guillemets, dans la cour. Même si on n'a jamais entendu parler de ça, on comprend assez vite, en gros, qui a telle place et qui il faut jamais emmerder.
Ouais. Oui, il n'y a pas trop d'exposition, parce qu'en fait, le perso se retrouve balancé là-dedans, un peu à son insu, et nous avec, du coup.
Oui. Mais après, on n'est pas sur l'archétype du personnage qui connaît strictement rien, parce que pour le coup, Mao Mao a beaucoup de culture, oui. Notamment sur... elle ne connaît pas exactement tous les us et coutumes de la cour intérieure, mais elle sait comment ça se passe quand même.
Oui, et puis de par, sans en dire plus dans les détails, de par son vécu, son historique, elle a quand même... elle n'a pas que des connaissances d'herboriste planquées dans sa cabane au fin fond de la forêt. Quoi.
Elle se retrouve notamment dans un monde, on pourrait dire... où il y a que des femmes autour d'elle et des eunuques dans la cour intérieure.
Oui, ah oui.
Et en fait, je trouve que tout ce qui est dynamique, elle va se retrouver très rapidement embrinquée dans des intrigues de cour à base d'honneur. Et l'honneur tue. Je vais être clair, l'honneur ça fait mourir si tu fais pas gaffe assez rapidement. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'avait rappelé un film de Patrice Lecomte de 96 qui s'appelle Ridicule. Et qui décrivait parfaitement les jeux de pouvoir à la cour de Louis XVI. Et c'est vraiment ça aussi, les carnets de l'apothicaire. Au-delà du côté enquête, on peut très bien s'intéresser juste aux parties enquête. Mais je trouve qu'il y a le côté jeu de pouvoir et surtout...
Intrigue politique,
d'influence qui est extrêmement bien fichu sans que ce soit pas montré comme je fais un jeu d'échecs en 3D à 18 coups. À part peut-être dans la méta-enquête, mais ça, on verra ça plus tard. Mais et des fois, des intentions qui sont des fois nobles et des fois très, très petites de manière générale. Et je trouve ça très humain de manière générale et très intéressant. Et globalement, c'est un monde extrêmement patriarcal. Alors, je ne sais pas si on peut faire plus patriarcal que ça.
Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est le patriarcat fait monde.
Voilà, c'est ça. Bah, en gros, on est dans un monde où la cour intérieure, là où il y a l'empereur. L'empereur, il dit il faut pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse ensemencer qui que ce soit. Donc il y a aucun, aucun mec tout autour. S'il y a des mecs, ce sont des eunuques, donc des gens qui sont pas censés pouvoir le faire. Et des femmes. Et c'est tout. Et le but est de plaire à l'empereur. Et oui. Toutes les femmes sont là pour plaire à l'empereur.
Oui. Ou là pour servir celles qui sont là pour lui plaire.
Donc c'est vraiment... c'est vraiment...
Oui, et clairement, pour pousser le truc un peu plus loin sur plus que le patriarcat, les stéréotypes genrés, etc. Donc les mecs, à part le fait que voilà, sont censés être des eunuques pour ne pas pouvoir faire quoi que ce soit avec les femmes qui les entourent, en gros, c'est soit des postes très haut placés à la gérance, donc le grand intendant par exemple, des postes un petit peu plus, on va dire, dans le corps scientifique, genre médecin.
On va pas faire une femme médecin.
Voyons. Des postes plutôt, donc pareil, stéréotypes genrés d'hommes, donc c'est-à-dire physique, militaire, donc les gardes, typiquement.
Ouais, les gardes. D'ailleurs, les gardes et les militaires sont à l'extérieur la cour intérieure.
de rares personnes qui peuvent être en visiteur, mais pareil, du coup, c'est du haut placé. Et à côté de ça, les femmes, donc soit ce sont clairement les joyaux de l'empereur, donc, ce sont les grandes courtisanes.
Les grandes courtisanes,
c'est en gros pour dire la version moderne et vulgaire, c'est les putes de luxe, quoi. Mm-hmm. Et toutes les personnes qui gravitent autour.
Je te laisse pas dire ça, parce qu'il y a dans la série des putes de luxe.
Ah, pardon, à l'extérieur de la cour intérieure, monsieur. Et autour de ça, après, du coup, allez hop, les stéréotypes genrés, on continue. Donc il y a en gros soit leurs femmes, leurs servantes les plus proches, quoi, dans chaque maison, on va dire. Et après, autour de ça, tout le reste de la main-d'œuvre, donc des femmes qui s'occupent du ménage, du linge, du rangement, des préparations de repas, des remèdes, de machin, etc. Voilà. Tout. Enfin, voilà. Donc, en gros, les mecs militaires, mais bon, comme là, il y a plein de femmes, on vous fait en sorte que vous ne puissiez pas vous les faire. Mm-hmm. Et les femmes, allez hop, ménage, cuisine, rangement.
Et baise.
C'est parfait. Voilà, pour les quelques, entre guillemets, privilégiés de l'empereur.
Et du coup, entre toutes ces femmes, comment on fait pour déterminer qui est la plus puissante, qui est la moins puissante? Eh ben, c'est simple, qui a les faveurs de l'empereur.
C'est celle qui lui sert le plus souvent.
Voilà, c'est super.
Parfait.
Donc, voilà.
Pourquoi on parle de cette série déjà?
Parce qu'elle est super.
Ouais, alors peut-être pas pour ça, mais heureusement que c'est une représentation d'une Chine féodale.
Ouais, mais alors par contre, justement, déjà le fait que la série soit pas en train de s'excuser de son contexte. Elle est consciente de ce contexte-là et elle baigne dedans. Elle dit pas oh là là, elle dit pas en permanence oh là là, c'est pas bien ou c'est un modèle à suivre. Elle dit rien dessus. Elle est ok avec son contexte-là et du coup, elle montre comment les femmes doivent développer des stratagèmes pour survivre dans ce monde-là. Mm-hmm. Que ça soit justement, est-ce que tu joues de tes charmes? Est-ce que tu trouves un moyen d'avoir une influence ou des informations? Mm-hmm. Est-ce que tu trouves un rôle à jouer qui fait de toi indispensable? Et je trouve ça super intéressant. C'est très très intéressant. C'est ça que je trouve. C'est pas une série qui va parler de critique sociale ou quoi que ce soit. C'est une série qui va dire c'est la réalité des choses et maintenant tu fais avec, quoi. Mm. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Dernière thématique, Mao Mao est apothicaire.
Ah
bon ? Il y a un médecin dans cette série. Et il est intéressant de voir comment fonctionne la démarche scientifique de manière générale. Entre comment l'aborde Mao Mao et comment l'aborde le médecin en question. Le médecin en question l'aborde par on m'a dit qu'il fallait faire ça, alors je le fais, viens pas m'emmerder. Mao Mao a une approche beaucoup plus. Une démarche beaucoup plus.
Scientifique,
c'est-à-dire qu'on essaye et on reproduit. Et je me base sur ce que j'ai déjà vu ou
et
déjà observé, expérimenté pour aller plus loin. Et c'est quelque chose que lui a appris. Son père.
Voilà. Et mentor.
Et mentor, exactement.
Ok, c'est pas mal. On va peut-être parler un peu de personnages. Moi, rapidement, j'ai pas grand-chose à dire. Je te laisse la main juste après. En fait, j'en ai déjà parlé à travers les parties humour et romance. Je trouve qu'il y a deux personnages qui sont la force de cette série. Ce sont les deux personnages principaux.
Donc, Mao Mao.
Mao Mao, l'apothicaire, et Jinshi, le grand intendant. Mm-hmm. Parce que donc, non seulement ils sont bien présentés, ils se développent pas à vitesse grand V, ça serait pas crédible, mais progressivement. Et en plus, voilà, On nous montre que pour l'un comme pour l'autre, il y a des petits trucs qu'on ne sait pas encore sur leurs origines et ça s'éclaircit peut-être un petit peu progressivement. C'est pour donner un petit peu, voilà, en gros, tu ne sais pas encore tout sur ces personnages, ils sont cool, mais on va encore présenter des trucs par la suite et ça donne envie de les suivre en fait.
Oui, c'est vrai. Ouais. Forcément, nous, là, pour l'instant, on a surtout parlé de Mao Mao.
Ouais.
Pour donner un tout petit mot sur Jinchi, il y a un côté qui est très intéressant. Alors oui, il est censé ultra BG et... Ce qui est un des ressorts comiques, c'est qu'en gros tout le monde se pâme, toutes les femmes de la cour intérieure se pâment devant lui, sauf Mao Mao. Mao Mao, même si tu dis qu'il y a un début de quelque chose, elle se pâme jamais devant lui.
Ouais, mais c'est pas son genre.
c'est pas son truc. Et il le sait, il en joue à mort. En même temps, il a aussi ce côté ambitieux et très manipulateur parce que justement il joue de son charme, mais il sait justement se montrer vraiment très attachant dans sa manière de faire les choses, même si des fois on peut questionner, on va dire, sa manière de faire. Parmi les autres personnages, j'ai parlé rapidement de Lyaku, mais un personnage qui est vraiment très intéressant, c'est un personnage qui s'appelle Lacan, qui est un haut fonctionnaire. Je sais pas si on peut faire plus blasé.
Ouais. Mais il fait partie justement des personnes qui sont un peu extérieures à la cour, mais qui vient régulièrement.
Parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il est bien placé.
Voilà.
Parce qu'il lui est arrivé des choses qui fait qu'on peut pas lui refuser grand chose.
Voilà.
Et c'est un personnage extrêmement intelligent et extrêmement retors, et en fait qui prend plaisir à tourmenter ce qu'il a en face de lui. Et c'est globalement un sale type, hein, on va pas se mentir. C'est tellement un sale type qu'à un moment il a un arc qui pourrait le faire paraître un peu mieux, mais même ça, ça n'a pas réussi à me le rendre sympathique.
Ça t'a pas rattrapé le, ça t'a pas rattrapé
parce
le
que
coup.
Même si oui, bichette, mais bâtard quand même.
Ouais. Moi, j'ai franchement à peu près le même, non, j'ai eu à peu près le même ressenti. Hein.
Donc voilà, rapidement aussi, Dame Gokuyo, la force tranquille, et ouais. Puis Mamie Vert de Gris quoi. Mamie Vert de Gris, une patronne de bordel, incroyable.
C'est marrant parce que du coup, quand t'as commencé à parler de perso, je me dis ah putain, il échangera jamais. J'avais envie de dire, mais t'es une petite biatch. Mais du coup, oui, ça colle parfaitement. Tu
Mamie
donc
Vert de Gris,
biatch.
Incroyable.
C'est parfait.
Incroyable. Est-ce que t'avais vu la VF
Oui, j'ai regardé la série. Donc, contrairement à l'épisode précédent, Oshinoko, où j'ai regardé en version originale sous-titrée. Cette fois-ci, j'ai regardé en version française uniquement.
Qu'est-ce que t'en as pensé de cette version VF?
Eh ben, c'est propre. Franchement, c'est cool. Pour revenir un petit peu sur des choses qu'on a déjà pu dire un peu par le passé, mais pour refaire un petit reminder, un petit rafraîchissement, moi, j'ai un grand attachement aux comédiens et aux comédiennes qu'on peut avoir en France parce qu'on a des gens qui font du super boulot. J'adore évidemment aussi les versions originales parce qu'il y a parfois des performances qui sont faites par les comédiens et les comédiennes japonaises, qui sont incroyables, que des fois on a du mal à retranscrire dans notre langue. Mais en dehors de ma subjectivité sur ces sujets-là, il y a un truc un peu plus objectif, un peu plus neutre qu'il faut reconnaître, c'est qu'avec la VF, je peux me concentrer sur ce que je vois à l'écran et pas sur les sous-titres. Ça me permet deux choses. Si jamais je détourne le regard un instant, c'est pas grave, c'est pas la mort. Et aussi, même quand j'ai les yeux bien devant la télé, ça me permet de me concentrer sur un peu plus que le bas de l'écran, parce que quand il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de tests, qui peut être le cas dans des enquêtes ou des scènes d'humour.
Surtout là où, quand il commence à avoir des grandes explications, surtout quand on avance vers les épisodes 15-20.
Sur les déroulements.
Sur 15-20, il faut s'accrocher un peu. Hein.
Et ben, à un moment donné, ça me permet de regarder ce qu'il y a à l'image, en fait. Et parce que on peut dire ce qu'on veut, mais quand tu lis des sous-titres,
t'as
un temps de cerveau et de yeux qui est pas porté sur le reste de l'image, et forcément ça se ressent sur ton visionnage. Donc voilà, donc cette fois-ci c'était la version française et non pas la version originale pour changer, et franchement très agréable. Alors après, moi j'ai des noms de comédiens et de comédiennes en tête qui sont un peu vieux, je suis moins à jour que toi, donc je te laisserai nous sortir les noms que tu as retenus du casting, mais j'ai trouvé franchement très bien cette version française.
Oui, j'ai trouvé que c'était une des meilleures versions françaises que j'ai entendues ces dernières années en termes d'adaptation déjà.
Ce qui n'est pas peu dire.
Oui, parce que déjà en fait, au-delà du casting dont je parlerai juste après, sur le côté adaptation, c'est-à-dire en gros comment tu prends les textes qui sont en version originale et comment tu fais en sorte que lorsqu'ils sont dits en français,
ça fonctionne,
que ce soit crédible. Il y a deux trucs qui sont très importants, c'est les registres de langue. Et c'est les registres de langue et puis aussi le ton qui est adopté à chaque fois. En termes de registres de langue, avec tout ce qui est court, c'est un peu touchy parce que même si on a l'habitude de trucs en costume, etc., avec du vouvoiement, soit en japonais, il y a 40 000 vouvoiements différents. C'est un peu la galère. Et là, je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis parce qu'ils ont repris en fait des termes plutôt de cours occidental. En parlant, par exemple, les grandes concubines sont appelées dames.
Ouais.
Et c'est un truc qui sont vraiment réservés à uniquement les grandes concubines. Ils n'ont pas filé ça à d'autres personnes féminins qui seraient pourtant importants, mais qui ne l'ont pas laissé.
C'est ça.
Et pour le coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et ça, c'est des trucs d'adaptation où tu penses pas quand tu l'écoutes.
Mais eux, ils se sont posés, ils se sont creusés la tête avant d'en venir à ces conclusions.
Mais c'est super important parce que, voilà. C'est comme qui tu appelles seigneur, qui t'appelle.
Oui, tu peux pas dire dame Mao Mao alors que elle est plus en bas de l'échelle en fait. Hein.
Et que même si à un moment on la déguise pour qu'elle soit jolie, ce sera toujours Mao Mao, c'est pas dame qui que ce soit, tu vois.
Non.
Donc,
à moins que ce soit une mission d'infiltration peut-être.
Mais en tout cas, entre guillemets, c'est là où tu vois, ok, ils ont bossé, tu vois. Ils ont bossé sur comment les prononciations.
Ouais.
Les prononciations aussi de termes chinois aussi, hein, parce que c'est plus. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que c'est pas mal de comédiens qui sont pas forcément ultra spécialisés animation.
Mmh.
C'est plus des comédiens qui sont qu'on entend plus dans série live ou film. Pour le coup, par exemple, Emily Rowe, en fait, qui joue le rôle de Mao Mao. Moi, je la trouve absolument parfaite, aussi bien dans le côté sérieux des enquêtes. Dans le côté, on va dire, euphorique.
Ouais, et les parties humour. Hein,
qui marchent bien. Et non, c'est très difficile d'avoir ces ruptures de ton,
ah,
des fois.
Ah oui, non, mais clairement.
Et je trouve que ça marche très bien. Elle est crédible tout le temps, même dans les moments d'introspection. Ça marche super bien, notamment quand elle va parler de son père ou de sa famille ou de sa relation avec les gens qui l'ont éduqué.
Mmh.
Je la trouve excellente.
Ou même ses réflexions vis-à-vis des personnages qui l'entourent dans la cour impériale.
Que les moments où elle est. Il y a des moments où elle est énervée, typiquement, je pense à ça que tu penses, et ça marche super bien. Et c'est une actrice que je connaissais pas, et en fait, qui fait surtout du live. Il y a quasiment pas fait, qui a quasiment pas fait d'animation, ou très peu. Et je trouve que ça. Et déjà, c'est bien parce que c'est une voix rafraîchissante, vu qu'on l'a pas entendue sur plein de trucs auparavant, et qu'en plus, on voit que elle est extrêmement douée et que ça fonctionne bien.
Ouais.
Et puis, ils ont aussi utiliser pas mal de pour le coup vraiment des grands acteurs en second rôle, notamment tu as Martial Leminou qui fait Gao Shun. Martial Leminou, pour ceux qui sauraient pas, regardez Full Metal Alchemist, l'alchimiste de flamme, c'est lui. et il est absolument incroyable là-dedans, et dans le rôle de Gao Shun qui est le secrétaire
de Jinchi.
Le côté la voix de la raison et tout ça, il est superbe. Il est d'une fiabilité sans faille,
parce que même Jinchi, qui est le grand intendant, qui a plein de responsabilités, qui est très droit, très carré, etc.,
des fois
via
ça,
ses petits côtés manipulateurs ou ses petites faiblesses vis-à-vis de ses sentiments ou même des pressions, etc., il y a des moments où il craque un peu, et effectivement à côté lui il est toujours impassible, toujours droit, toujours carré.
Mais
il le rappelle à la raison quand il faut, quoi.
Et le personnage est bien fait, mais surtout quand on le double, c'est bien d'avoir justement cette droiture là. Et quand il y a des légères nuances, par exemple les hésitations, les pour quand on approuve ou on n'approuve pas une partie, etc., il le fait extrêmement bien. Et d'ailleurs, ça donne aussi des parties humoristiques extrêmement bien, hein, extrêmement efficaces. Il y a un rythme comique qui est bien maîtrisé aussi. Et puis bon, là, pour en citer pêle-mêle, il y a Donald Renew, donc celui qui double les Spider-Man notamment, dans le rôle de Lyaku. Il y a Bernard Gabay, donc celui qui double Robert Downey Jr., donc les Iron Man, dans le rôle de Lacan. Et ça tombe bien parce que pour un personnage aussi retors, aussi particulier, il fallait une voix où tu dis, ok, il est intelligent, mais ça peut être aussi terrifiant, et ça marche très très bien, je trouve. Et puis bon, là, c'est un de mes chouchous, Guillaume Orsa, dans le rôle de l'empereur. On n'entend pas beaucoup l'empereur, on va être clair.
Ouais.
Mais Guillaume Orsa, c'est la voix, c'est la personne qui double notamment Vin Diesel ou Dwayne Johnson. Donc une voix autoritaire, il sait faire, on va dire. Quoi. Et l'empereur, il parle pas souvent. Et quand alors, tu l'entends,
attends,
tu fais OK.
Alors attends, la punchline, c'est je vais te carrer mon poing dans les dents tellement profond que tu devras te carrer une brosse dans le cul pour te les brosser, c'est ça ?
C'est une phrase empereur.
Voilà.
C'est une phrase d'empereur. Mais bon, en gros, c'est surtout pour dire que même quand des seconds rôles, ils ont pris des gens très solides.
Du bagage, quoi.
Du gros bagage, très solide.
Et sur des rôles qui leur sont adaptés.
Ouais.
Voilà. Et pas, parce que pareil, encore une fois, sur SAO, le problème, c'était pas les compétences des comédiens.
Ils sont sûrement très bien sur d'autres rôles.
Prenez ces rôles qui ont 25 ans de moins que vous.
Et alors, pour le coup, c'est pratique d'avoir une série avec quasiment que des adultes, c'est quand même pratique aussi.
Bah oui, non mais voilà.
C'est quand même pratique, c'est plus facile, c'est plus facile de caster correctement quoi.
Ouais.
Mais non, bref, une excellente VF, un bon mix entre du boulot sur l'adaptation, un casting vocal qui correspond aux compétences des acteurs.
Et qui est impliqué et puis voilà.
Et non, ça fait très
marche.
Ça marche et ça fait très plaisir et c'est exactement le niveau d'implication qu'on veut sur toutes les V.
Voilà, voilà. Donc, le mot, pour résumer ça, c'est continuer.
Voilà, continuer. Continuer.
Et c'est ce qu'on va faire aussi, d'ailleurs.
Ouais.
Hein
bah, c'est ça. Bah, d'ailleurs, la saison 2 a été annoncée. Là, elle devrait arriver pour 2025. Et donc,
voilà.
Il y a aucune chance qu'on ne regarde pas. Hein, de toute façon, donc, voilà.
Shut up and sell me the Blu-ray.
Voilà, c'est ça.
Bon, et ben voilà, c'est ainsi que se termine le 21e, donc l'épisode de la majorité du format canonique du podcast Le Samouraï à la soubrette. On espère que cela vous a plu. On va bien vous trouver quelques petits extraits VF, parce que bon, après en avoir dit autant de bien, ça serait quand même dommage de faire une Overlords 4 et d'oublier d'en mettre. Hein. Tu vois, je suis dur avec moi-même.
C'est
aussi.
Bien. C'est
et
bien.
Donc
c'est
voilà,
plus,
on va.
Comme ça, j'ai pas à le faire.
Voilà. On va vous laisser du coup quelques extraits VF et puis on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode. Zoubi.
Salut.
J'aurais aimé pouvoir danser pour elle aujourd'hui. Mei Mei est la plus gentille des femmes. Ce plat est empoisonné. Laissez-moi boire le reste du bol.
Faisons en sorte que ça ne lui traverse pas l'esprit. Assurons-nous de sa loyauté. Je ferai usage de mon charme pour qu'elle reste sous mon emprise.